chronique de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La chronique de Lydia Arambourg, peintre du XXe siècle, est aujourd'hui consacrée à Jean Devanne.
Jean Devanne est né à Hellemmes-les-Lilles en 1921 et décédé à Paris en 1999. La longue marche de Devanne, un des praticiens majeurs de la peinture abstraite de la seconde moitié du XXe siècle. Entrée en abstraction. Le jeune Jean mène conjointement des études classiques et musicales. Pour celui qui étudie le violon dès l'âge de 6 ans et qui reconnaîtra plus tard que la musique est le seul art enseigné sérieusement dès l'enfance, l'art lui est révélé par un peintre professeur de son lycée. Il sera peintre. La visite de l'exposition de 1937 sera décisive. À Paris, il entre à l'École des Beaux-Arts, où il suit les cours d'architecture. Mais c'est dans les ateliers de Montparnasse où les discussions enflammées vont le former. Le brassage brûlant de toute théorie et de tout style faisait surgir des ferments incroyablement féconds. « C'était vraiment cela, l'École de Paris », dit-il. Il fait une première exposition en 1941, Galerie L'Esquisse, des peintures pointillistes dans lesquelles le sujet s'efface sous la pression des contrastes de couleurs. À la fin de la guerre, Devanne est devenu abstrait. Lorsque Devanne découvre la similitude de ses recherches avec celle de ses grands aînés, Hartung, auquel il succédera à l'Académie en 1993, de Staël, Poliakov, Domela, l'abstraction envahit les cimaises de la capitale. Conforté, il s'enthousiasme pour ce qu'il sait être l'unique voie de la peinture moderne. En 1945, la galerie Drouin a fait l'événement avec des œuvres présentées sous le titre « d'art concret ». On y voit des œuvres de Robert et Sonia Delaunay, Domela, Freundlich, Gorin, Herbin, Magnelli, Pevsner, Taubert Harp, Van Doesburg, fondateur du mouvement Cercle et Carré, converti en abstraction-création en 1929-1930. En 1946, dans cette même galerie, Drouin, Devanne fera sa première exposition de peinture abstraite. Le prix Kandinsky, le salon des réalités nouvelles. En 1946, Devanne reçoit le prix Kandinsky, décerné pour la première fois. Destiné à couronner la recherche de jeunes peintres dans le domaine de l'abstraction, le prix, d'un montant de 12 500 francs, a été créé par Nina Kandinsky en mémoire de son mari décédé en 1944. L'offensive abstraite prend ses marques à la galerie Denise René, ouverte à la fin de 1944, rue La Boétie. En 1946, Devanne participe à une exposition collective aux côtés de Derol, Hartung, Schneider, Harp, Poliakov et Sonia Delaunay. Tous se retrouvent le samedi à la galerie et poursuivent leur conversation dans un café de la rue du Vivier. Se voyant exclus des salons officiels, ces artistes décident de fonder leur propre salon. Ce sera le salon des réalités nouvelles, dont l'unique règlement est de présenter une œuvre non figurative, sans sujet identifiable. Devanne y participera annuellement dès l'ouverture en 1946. Il donne une série de conférences centrées sur les idées pédagogiques de Klee et de Kandinsky au cercle de la rue Cujas. Artiste phare de la galerie Denise René, Devanne participe à des expositions et à des groupes itinérants en Scandinavie et en Belgique qui contribuent à diffuser l'art abstrait à l'étranger. Dès cette époque, il bénéficie d'une forte audience au Danemark, où il aborde les problèmes de l'art abstrait au musée de Thorvaldsen à Copenhague. En 1949, il illustre « Préface à un livre futur » de Lautréamont, publié aux éditions Sorensen, et qui se termine sur un monochrome jaune. Sa peinture évolue. De formes découpées et assemblées dans des tonalités sombres, il découvre que l'on peut tout faire avec quatre couleurs sur un même plan. En 1949, il écrit son « Traité de la peinture plane » qui sera publié en 1972, texte majeur en matière théorique pour une compréhension de son œuvre plastique. Préfiguré en 1948 par sa première peinture murale « La joie de vivre », ses théories sur le plan et la forme, les illusions optiques du chromatisme, lorsqu'un bleu et un rouge se touchent, l'on observe une petite ligne colorée à l'intersection, comme une vibration rosée. La couleur s'impose à lui en force à partir de 1952. L'atelier d'art abstrait. À la polémique qui oppose les tenants d'une abstraction géométrique dite froide à ceux d'une abstraction lyrique chaude, De Vannes répond sans ambiguïté. L'abstraction est une éthique, un mode de vie qui s'adapte. Et son militantisme balaye tout, y compris la figuration. Il est urgent d'imposer un art constructif participant pour lui, je le cite, à une action directe avec la communauté humaine. C'est animé de cet esprit activiste que De Vannes crée en 1950 avec Edgar Pillet son atelier d'art abstrait, rue de la Grande Chaumière. En réalité, c'est à la demande de l'ambassade américaine que De Vannes ouvre un atelier destiné à accueillir les GI auxquels leur gouvernement alloue une bourse de 4 ans. L'atelier ne désemplit pas, rapidement fréquenté par des étudiants venus du monde entier. De Vannes enseigne les règles de l'abstraction et ce qu'il appelle la technologie de la peinture, qui consiste en l'étude de la chimie des couleurs, la théorie sur la vision, la colorimétrie. Pour De Vannes, il y a deux façons d'appréhender la couleur. La couleur lumière, on étudie le spectre solaire pour en extraire les couleurs à l'état pur, et la couleur matière, donnée par les couleurs chimiques des tubes. Il observe qu'il existe les couleurs solides et les couleurs fugaces, et étudie alors les ouvrages des ingénieurs de chez Philips. Les problèmes de technique plastique liquide retiennent son attention. Les matières sont rares et rapportées de Suisse et de Suède par ses élèves. Les réactions à sa pédagogie ne se font pas attendre. Le critique Charles Estienne publie un brûlot sous le titre « L'art abstrait est-il un académisme ?» auquel répond Léon Degant « L'épouvantail de l'académisme abstrait » en défenseur de De Vannes. Le peintre a trouvé son langage. Les lacs glycérophtaliques et les antisculptures. L'apothéose de Marat, acquise par le Centre Pompidou, est réalisée en 1951. C'est une œuvre charnière. Elle inaugure un grand format, 2,60 m par 9 m de long, et un matériau nouveau, l'isorel, qu'un récent rapport de l'UNESCO recommande au peintre pour sa durée. Mais surtout, De Vannes recourt à une peinture industrielle, des lacs glycérophtaliques en peau. La même année, il réalise ses premières antisculptures, qu'il appelle ainsi car il s'agit d'un volume peint comme un tableau qui aurait des bosses et des trous. De Vannes raconte « J'ai trouvé un arrière de voiture de course d'avant-guerre dont la forme m'a intéressée. J'en ai scié la base, je l'ai mise debout et je me suis aperçu que je pouvais peindre l'intérieur et l'extérieur. Ce n'est pas une sculpture, c'est une peinture qui, au lieu d'être sur un plan, est une surface creusée ou bombée. Le tombeau d'Anton Webern inaugure une suite d'œuvres à partir desquelles il explore les possibilités de ces espaces non euclidiens en utilisant les variétés de carrosseries automobiles comme les cabines de semi-remorques, les carénages de moto. Un vocabulaire nouveau révèle des émotions inconnues. Ainsi découvre-t-il que les trois couleurs fondamentales ne sont pas le rouge, le jaune et le bleu, mais le rouge, le vert et le bleu. Quant au jaune, il transparaît par oscillation. Ces nouvelles possibilités esthétiques sont à mettre en parallèle avec les recherches contemporaines du dodécaphonisme et de l'atonalisme, familier à celui qui a pratiqué deux disciplines complémentaires, la musique et l'architecture. En 1953, l'atelier d'art abstrait ferme et Devanne rompt son contrat avec Denise René. Mais Devanne continue et développe sa pédagogie avec des conférences à Paris, l'art abstrait et le matérialisme didactique, en réaction contre le réalisme socialiste, aux prises de position violentes contre l'abstraction. Mais aussi en Europe, en Amérique du Sud, il donne des conférences tout en participant à des expositions internationales. De retour en 1955 à Paris, Devanne assiste au triomphe de l'abstraction lyrique. En 1956, Devanne expose chez Daniel Cordier, qui a ouvert une galerie rue Duras. Il est entouré de Dubuffet et de Matta. L'ancien secrétaire de Jean Moulin a suivi les cours de l'atelier d'art abstrait comme auditeur. S'il reconnaît en Devanne un théoricien rigoureux, il déclare « La peinture géométrique était froide, il, Devanne, l'a baroquisée. » En 1962, Devanne expose à la Galerie Cordier de New York. En 1966, a lieu sa première rétrospective à la Kunsthalle de Berne. Les grandes réalisations monumentales, la longue marche de 1969. Pour les Jeux olympiques de 1968 à Grenoble, Devanne réalise 16 peintures murales de 3 mètres de haut sur 60 mètres de long pour le stade de glace. La même année, il représente la France à la Biennale de Venise. Il réalise des ensembles de plus en plus grands. La longue marche est présentée à l'arc du musée d'art moderne de la ville de Paris en 1969, avant d'être installé à la faculté des lettres de Lille. Il s'agit de 36 panneaux de 100 mètres de long sur 2 mètres de hauteur. Grenoble 70 est une fresque de 1200 mètres carrés d'une peinture pour le musée d'art moderne de Grenoble. Citons quelques autres réalisations spectaculaires. En 1972, Habitacle rouge, une œuvre tridimensionnelle. 1973, Stella, au musée Soto à Ciudad de Bolívar au Venezuela. 3,33 m de haut sur 10 m de long. En 1975, ce sont 4 œuvres murales de 10 m de long pour le siège social de Renault et 2 œuvres murales de 110 m de long pour le métro de Hanovre. 1977, murale au lycée de Millau, 580 m². 1979, peinture tridimensionnelle dans l'usine Gori au Danemark, où l'on peut voir 7 km de tubes et 20 réservoirs. En 1985, c'est le projet pour la Grande Arche de la Défense de l'architecte Otto von Spreckelsen. Les 4 peintures de 100 mètres sur 70 sont réparties sur les 32 étages du bâtiment. L'exécution des muraux de la Grande Arche a lieu entre 1986 et 1989. Ces muraux représentent au total 15 280 mètres carrés d'émail cuit à 120 degrés sur plaque d'acier. Il continue toujours ses antisculptures et pratique la sérigraphie depuis 1966. Il réalise des tapisseries également pour la manufacture des gobelins. De Vannes laisse de nombreux écrits sur ses recherches et sur l'histoire de l'art. Ses œuvres sont conservées au Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, et dans la donation Cordier.